jour même le sel.
Écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 19 janvier 2015, avec Michel dans les studios, Jean-Pierre aussi et Robert en duplex. Robert qui va nous ouvrir ce journal avec une information qui concerne la Grèce.
Oui, pour signaler que dans une demi-heure, à 19h30, il y aura la diffusion sur Internet par le biais de Dailymotion, la retransmission en direct du meeting qui se tient à Paris de soutien à la lutte des partis anti-austéritaires et tout particulièrement de Syriza, parti Syriza qui sera présent à Paris. 19h30, une quarantaine d'organisations en France appellent à ce meeting et plus généralement un soutien à Syriza. Elles sont aussi bien politiques, organisations politiques, que syndicales, associatives. Et parmi les politiques, alors il y a l'ensemble des groupes qui appartiennent au Front de Gauche, mais il y a également les Verts, il y a également toute la gauche socialiste, du PS, et puis il y a des groupes moins participants actuellement à la vie politique, comme Nouvelle Donne. Puis côté associatif, eh bien les gens d'Attaque, les gens de Copernic, les gens aussi de Roosevelt, et puis bien d'autres seront là, ainsi que plusieurs syndicats. Donc je le répète, alors je crois qu'il suffit de faire d'aller sur Dailymotion.com. Alors ça devrait suffire, hein, mais on peut peut-être être plus précis en écrivant dailymotion.com/video/X2. Voilà, mais je crois que ça doit être. X2, on fait une séparation, un blanc, et on ajoute EV minuscule, le chiffre 8, B Baptiste minuscule, et puis O, la lettre O. Mais je crois qu'avec dailymotion.com, on doit pouvoir y accéder. 19h30, meeting à Paris de soutien à la campagne de Syriza pour ces élections en Grèce le dimanche prochain. dont vous allez peut-être parler, et même sûrement parler maintenant, pour décrypter les enjeux et puis le programme.
Oui, on peut peut-être en dire quelque chose de plus. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de battages autour du spectre de la victoire de la gauche en Grèce, entre l'Allemagne surtout, la France aussi. Alors ce soir, on apprend que, je sais pas, tout le monde devient raisonnable, ou alors ils ont réfléchi un peu. Et il semble que la zone euro pourrait aider la Grèce si la gauche venait au pouvoir dans les mois à venir. Alors, revirement de position, est-ce que c'est juste des effets d'annonce ou un sursaut de réalisme? La Grèce, 2,5% du PIB de l'Europe, ça ne devrait pas être un problème, mais par contre, ça peut être un problème pour les banquiers européens, les banquiers français en particulier, qui tous sont là-bas, ont investi là-bas, et si la Grèce refusait de rembourser ses créances, c'est 43 milliards que la France devrait trouver pour compenser cette perte. Alors, on comprend dans ces conditions que les banquiers cherchent plutôt à aider la Grèce pour passer le cap, que de faire une croix sur les avoirs, quoi. Voilà, Michel, tu avais peut-être un complément à donner.
Oui, toi, ce qu'on disait, hein, toute l'Europe, l'Europe de gauche a les yeux braqués sur Athènes, sur les échéances de dimanche prochain. Et pour cause, effectivement, il en va un peu aussi de la tendance que pourrait prendre le cours des choses dans les années à venir, si jamais Syriza venait donc à l'emporter, et surtout si Syriza venait à mettre en place cette politique de refus donc du diktat de la Banque Centrale Européenne et du FMI. Et tu l'as dit, hein, en fait. Les institutions devancent un peu ce qui serait une catastrophe pour eux en essayant de montrer que voilà, on peut quand même trouver un terrain d'entente. Mais quand on met effectivement le banquet devant le fait accompli, hein, c'est lui qui revient au portillon, donc tapé, parce que ce qui l'intéresse quand même, c'est qu'on le rembourse. En son temps, Kirchner l'avait compris. En Argentine, hein, en disant qu'ils ne rembourseraient pas. Et donc, finalement, c'est les banques qui sont revenues, hein, sans faire beaucoup de publicité, parce qu'ils comptaient donc récupérer ne serait-ce que leur mise. Hein. Et il en sera de même pour l'Europe. Mais bien sûr, c'est sur le principe même, hein, que ça ne plaît pas aux financiers. Ça. C'est le fait, effectivement, qu'on puisse, et que par le pouvoir du peuple, le peuple et donc ses représentants puissent donc les acculer à renégocier donc la dette.
Voilà pour ce sujet. Autre actualité, alors on va s'éloigner pas trop vite de l'Europe. L'Ukraine où ça chauffe, bien sûr. Le gouvernement de Kiev essaie de mettre la pression militaire. Et en face, eh ben, les séparatistes aussi se font aider, semble-t-il. Enfin, c'est pas une nouvelle, mais il y aurait encore un contingent de militaires russes qui serait rentré pour tenir cet aéroport absolument et essayer de le prendre. Un aéroport qui se voulait être stratégique, mais qui est complètement détruit maintenant. Alors, on se demande quel est l'aspect stratégique du lieu. En tous les cas, une trentaine de morts depuis deux jours, des combats au canon, enfin, une situation de guerre, quoi.
Une situation de guerre dans un contexte où les dernières déclarations du président ukrainien, Petro Porochenko, sont martiales, quoi, belliqueuses. Donc, on s'apprête cette semaine à mobiliser 50 000 réservistes, hein, et c'est la première, je veux dire, tranche, hein, de mobilisation, et donc on voit déjà qu'on veut, du côté ukrainien, préparer la grande offensive de printemps. Donc tout doucement, on s'y prépare parce que on ne veut surtout pas, donc c'est la position ukrainienne, hein, et soutenue par les chancelleries occidentales, à commencer par les États-Unis, on ne veut pas donc que ce conflit perdure et se glace, comme ça a été le cas en Abkhazie, comme ça a été le cas en Transnistrie, etc. Donc on veut régler à tout prix donc ce conflit-là, surtout que le temps presse pour l'Ukraine qui est au bord du chaos économiquement parlant, donc qui vit sous perfusion d'aide occidentale, elle qui est fortement endettée, et notamment endettée vis-à-vis de son grand voisin et aujourd'hui ennemi, qui est la Russie. Donc les choses ne vont pas dans le sens d'un apaisement. D'autant plus que les dirigeants russes et ukrainiens auraient dû se retrouver à vendredi prochain à Minsk, sous l'égide de Loukachenko, donc pour de nouvelles discussions. Et on voit qu'elles ont été reportées quant à la proposition du président Nazarbayev kazakh de tenir un grand donc sommet entre Poutine, Porochenko et Hollande et Merkel à Astana. Donc là aussi on voit que personne n'est vraiment chaud, à commencer donc par le président ukrainien qui mise là effectivement sur le rapport de force, rapport de force qui ne lui a pas du tout réussi, rappelons-le cet été. Donc voilà, on voit bien que d'un côté les Occidentaux ont misé sur la dévaluation du rouble, sur la chute des cours du pétrole qui est primordial donc pour l'économie russe, un baril qui serait au-delà de 100 euros alors qu'actuellement il est à moins de 50, et donc en espérant que le malaise social va contraindre Poutine à lâcher prise donc sur la Novorussie, donc sur ces régions donc qui sont tenues par les pro-russes en Ukraine. Et dans le même temps, donc l'Ukraine, le président ukrainien, conscient que dans le temps, de toute façon, s'il ne résout pas militairement le conflit dans l'année, s'il commence à engager de pourparlers, donc c'est une forme déjà de reconnaissance, que de reconnaître cette région séparatiste, et s'en est parti. On voit très bien ce qui se passe ailleurs, Transnistrie, Abkhazie, c'est des conflits gelés déjà depuis maintenant des décennies, et au Karabakh, pareil, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et c'est pas prêt effectivement d'être résolu. Donc Porochenko et les Occidentaux ne veulent pas de suivre effectivement ce schéma-là.
Mais comment ça va finir? Tu entrevois une...
Bah c'est le rapport de force, donc le rapport de force c'est celui de miser sur les faiblesses de l'autre. Donc faiblesse, comme je dis, les Occidentaux misent sur la répercussion sur l'année 2015 donc des sanctions. Les indicateurs économiques sont au rouge pour la Russie, du moins pour l'année 2015. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que le pouvoir russe, est-ce que Poutine n'aurait pas plus à perdre, à s'entêter, à vouloir donc soutenir coûte que coûte les séparatistes pro-russes de la région, que de trouver un terrain d'entente et toute la difficulté là. Donc de l'autre côté, les Russes, pareil, ce qui les intéresse une fois de plus, c'est que Porochenko reconnaisse sous une forme autonome cette région-là. Je pense que un statut d'autonomie substantielle dans le cadre d'une souveraineté ukrainienne, ça irait très très bien à la diplomatie russe en l'état maintenant. Mais bon, pour l'instant, on en est très très loin. Et donc, d'un côté comme de l'autre, on voit bien que, je ne sais pas, quels sont les conseils qui sont prodigués par les chancelleries occidentales et notamment par Washington à Kiev, mais il est clair que pour l'instant c'est de tenir donc la position la plus jusqu'au boutiste, et celle qui fait que Porochenko refuse apparemment tout semblant effectivement de discussion, de plan de paix, et ne veut pas discuter de près ou de loin donc avec les séparatistes.
Il va avoir les moyens militaires de les contenir?
Sur le papier, non, mais entre-temps, il faut voir aussi ce qui se passe en coulisses. Est-ce que les Américains avaient promis de donner de l'aide indirecte militaire? On va voir les répercussions. Les Canadiens avaient promis aussi. La chancelière allemande avait promis, pas d'aider militairement, mais de soutenir l'économie ukrainienne, et de soutenir le gouvernement qui est en quasi faillite. Donc on voit bien déjà que rien que ses soutiens occidentaux, de ses parents occidentaux, poussent Porochenko donc à cette position, donc la plus jusqu'au-boutiste possible. Mais on ne sait pas. Hein, je suis pas d'intuition.
Quoi.
J'ai aucune espèce d'intuition. Non, tout à fait. J'ai aucune espèce d'intuition. Moi, j'ai peur effectivement qu'on aille sur une forme de plus ou moins long terme, c'est un conflit larvé. Hein. Il y a un moment de rupture, à un moment. C'est-à-dire, est-ce que ça sera 2015, 2016 ? Mais il est clair qu'en l'état, d'un point de vue, en même de politique qui est intérieure, hein, pour par exemple Poutine ne peut plus se permettre effectivement de lâcher en l'état, hein, donc les séparatistes pro-russes. Donc il les soutient. Il les soutient, mais pas ouvertement. Hein. Il les soutient par la bande.
Presque, quand même.
Non, bah officiellement, il n'y a pas l'armée russe présente dans la région de Donetsk. Ce ne sont que des volontaires. Hein, voilà. Donc il n'y a pas de soutien direct. Il n'y a pas l'armée russe officiellement qui est rentrée dedans, alors que tout le monde sait que les réservistes russes, les anciens de l'armée sont là, que les volontaires tchétchènes russes combattent aux côtés des séparatistes. Mais il est clair que s'ils lâchaient en l'état ces régions-là de Lugansk, de Donetsk, sans contrepartie, ce serait une gifle en politique intérieure, hein, en son sein, qui serait énorme pour Poutine. Donc la solution de compromis, je pense que c'est la réintégration de ces régions dans l'Ukraine, mais avec une garantie d'autonomie, hein, pour ces régions, notamment linguistique et peut-être aussi budgétaire. Mais là, effectivement, c'est peut-être le précédent que Porochenko ne veut pas ou ne peut pas. Et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est lui qui décide, c'est l'aile la plus extrémiste, hein, des nationalistes ukrainiens, ou c'est Washington qui décide à leur place. Donc on le verra bien dans le temps. Donc là, pour l'instant, chacun joue ils ont apparemment la certitude en soutenant comme ça les séparatistes que le gouvernement ukrainien ne va pas durer dans le temps, que ce gouvernement-là, il joue juste effectivement sur l'effet patriotique, etc., mais que dans le temps, les gens vont s'en lasser, et ils risquent effectivement d'en s'en lasser. Hein. Je ne suis pas sûr que rameuter les réservistes comme ça, ce soit une bonne idée à plus ou moins long terme. Juste rappeler aussi ce fait, hein, sociologique, hein, c'est-à-dire que la majorité des Ukrainiens, notamment les Ukrainiens du centre, sont pas très chauds non plus pour aller combattre. Hein. N'oublions pas les forces ukrainiennes. Elles ont été tellement faibles que ce sont les volontaires, notamment les volontaires du bataillon Azov, qui sont plutôt orientés droite-droite, pour pas dire extrême-droite nazie, hein, c'est le cas pour certains de ses membres, qui combattent les forces pro-russes. Et pour grande partie d'entre eux, ils sont originaires des régions occidentales, la région de Lvov, de la frontière avec la Slovaquie, avec la Pologne. Donc, faut jamais oublier un peu cette dimension-là. Les gens de la région de Mariupol, Donetsk, sont très très peu enclins à prendre les armes et aller combattre les séparatistes pro-russes.
Voilà pour ce soir sur ce dossier. Un autre dossier qu'on peut aborder, c'est tout le Moyen-Orient et un petit peu au-delà, avec Israël qui a lancé une attaque dans le sud-ouest syrien contre le Hezbollah. Et ben, je sais pas, ils devaient être bien renseignés puisqu'ils ont tué 5 personnes au moins, dont un commandant militaire et 6 gardiens de la révolution, dont le fils d'un précédent dirigeant du Hezbollah qui avait été déjà tué, Mounier s'appelle, paraît-il, en 2008. Alors, bien sûr, grosse réaction du Hezbollah. Déjà 3 jours avant, le Nasrallah avait menacé de riposte si jamais ces hommes étaient attaqués. Et voilà, la situation est faite. Alors, ces membres du Hezbollah étaient là pour soutenir et combattre avec les troupes légalistes de Bachar el-Assad contre les opposants sunnites dans le secteur. Voilà une donnée de plus à un moment où, par ailleurs, la Palestine a engagé contre Israël une tentative de faire comparaître devant la CPI Israël pour ses crimes, en particulier à Gaza, ce que les Américains taxe d'ironie tragique qu'une telle demande. On peut se poser des questions. Robert, tu voulais intervenir sur là-dessus, en même temps l'Irak et la Syrie ?
Non, pas sur ces sujets-là.
Pas sur ces sujets-là. Alors, je donne la parole à Michel.
Oui, enfin, ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé hier donc, sur le plateau du Golan, donc côté syrien, rappelons juste que le plateau du Golan est occupé depuis maintenant plus de 40 ans pour partie par Israël, qui en fait... qu'il a annexé de fait, hein, et, alors que la Syrie réclame toujours la restitution donc, de ce territoire. Et juste rappeler que les membres du Hezbollah et de la guerre de la révolution iranienne qui ont été tués sur ce plateau-là combattaient le front al-Nusra, donc front al-Nusra, qui est affilié à l'armée syrienne libre. On la cherche en vain, cette armée syrienne libre. C'est-à-dire, on a appris que la plupart de ses membres, qui étaient encore formés par nos forces hein, occidentales, françaises, américaines, dans les pays limitrophes, notamment en Jordanie, eh bien, on fait défection, sont maintenant membres de l'État islamique. Alors, qu'est-ce que Al-Nusra ? Al-Nusra, c'est ni plus ni moins, ils se revendiquent d'Al-Qaïda. Donc, juste rappeler un peu ce fait-là. Les Israéliens bombardent à leurs frontières les positions donc, du gouvernement syrien, et notamment du Hezbollah, et c'est de bonne guerre. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils ont tendance, effectivement, à aider... le front al-Nusra, et on a eu des échos de responsables donc d'al-Nusra qui ont été soignés sur le plateau du Golan côté israélien. Donc là aussi les choses sont un peu plus compliquées qu'il n'y paraissent. Il est clair que là aussi la politique israélienne qui visait à se débarrasser de cet adversaire qui était la Syrie hein, vise aujourd'hui à généraliser un peu le chaos et à généraliser la guerre civile en son sein. Quant au Hezbollah, le Hezbollah qui soutient donc Damas, qui est conscient que si le régime de Bachar al-Assad tombe, il se retrouverait affaibli et isolé en Liban, et notamment dans la vallée de la Bekaa et dans le Liban Sud, où demeure la majorité de la population chiite libanaise. Le Hezbollah donc, ne va pas rester sans réagir, hein, c'est quasiment sûr, mais toujours est-il que je vois mal actuellement Nasrallah ou les dirigeants militaires du Hezbollah décider si j'ose dire, laver un peu leur honneur, balancer quelques missiles sur Israël, car ils ne sont pas en position de le faire, sachant que leurs forces vives en ce moment sont présentes en Syrie et combattent aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Mais la chose va revenir un peu... D'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, on risque effectivement d'avoir un regain des tensions très vif entre Israéliens et Hezbollah. Et d'où effectivement la question qu'on peut se poser, quel était le but là aussi des Israéliens, c'était, est-ce que le but premier peut-être c'était à essayer de provoquer une riposte du Hezbollah de manière à pouvoir bombarder alors justement que les forces du Hezbollah ne sont plus en mesure de défendre comme c'était le cas hein, il y a encore quelques années le Liban Sud.
Alors tout ça, en Syrie il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps forcément, pendant qu'au nord-est près d'une ville qui s'appelle Assaq, il y a des combats entre les troupes d'El-Assad et puis les milices kurdes quoi. Il semblerait que dans ce secteur c'est la première fois que de tels affrontements ont lieu. Alors là aussi, un enjeu de terrain peut-être pour les Kurdes face aux troupes de Bachar el-Assad.
Oui, les Kurdes sont, rappelons-le, hein, sont majoritaires dans la zone nord, limitrophe avec la Turquie. Donc On est en guerre civile, là. Les Kurdes combattent l'État islamique qui conteste justement leur présence militaire dans le nord, mais dans le même temps, ils combattent l'État central de Bachar al-Assad et ils veulent essayer de s'émanciper avec cette guerre civile, cette guerre de libération contre le régime. Toujours est-il à noter que le régime de Bachar al-Assad, s'il ne regagne pas du terrain de manière concrète, du moins il n'en perd pas. Et juste rappeler aussi ce fait, hein, on nous a promis la chute du régime d'Assad au bout d'un an de guerre civile. Aujourd'hui, on en est à pratiquement 4 et il est toujours là. Et en l'état actuel des choses, les chancelleries occidentales ont compris que maintenant, malheureusement, ils ne peuvent pas faire sans Bachar, ou quand je dis Bachar, ou c'est son régime, hein, ou c'est ses hommes forts, ou du moins c'est l'État qu'il représente encore, on ne peut pas faire sans, parce que tout doucement, donc la Syrie glisse effectivement vers le chaos généralisé. On ne peut pas s'appuyer sur des minorités comme les Kurdes. La fameuse armée de libération syrienne n'existe que sur le papier et que dans l'esprit de nos chanceliers. Elle n'a jamais vraiment vu le jour et elle n'est pas à même de combattre qui que ce soit sur le terrain militaire syrien. Et il est clair qu'aujourd'hui, la menace de l'État islamique, qui contrôle près de 40% du territoire syrien, si on affaiblit le régime, ça se fera avant tout pour le plus grand profit de cet État islamique. Et jusqu'à quel point veut-on donc que l'État islamique, qui contrôle déjà Mossoul, la deuxième grande ville d'Irak, se retrouve avec le contrôle d'Alep, hein, dans le nord, donc deuxième ville syrienne, ou peut-être aussi demain Damas. Mais pour l'instant, c'est surtout cette chose qui est à noter, hein. Quoi qu'on pense d'un point de vue moral de Bachar al-Assad, il y a encore une majorité donc de la population syrienne qui le soutient. Autrement, son régime n'aurait pas pu tenir. Il ne pouvait pas tenir uniquement sur la composante des Alaouites qui composent pour moins de 10% de la population syrienne. C'était pas possible. Donc n'oublions jamais ça. Donc encore une grande partie des Syriens sunnites. Et quand je dis grande partie, c'est surtout, malheureusement, c'est la bourgeoisie citadine soutient le régime. La très grande majorité des chrétiens soutient le régime. Une partie de la population druze soutient le régime. Et bien sûr, effectivement, les Alaouites duquel, effectivement, Bachar al-Assad est issu.
À suivre, donc, un autre pays où la situation est extrêmement instable, c'est la Libye. Avec une on ne sait plus qui gouverne, il y a deux parlements, il y a une coalition de milices qui s'appelle Aube sur la Libye et qui contrôle la zone de Tripoli. L'ONU à Genève essaie de négocier des accords qui pourraient stabiliser les choses, mais visiblement sur le terrain, c'est pas leur souci. Benghazi et Tripoli sont aux mains des milices maintenant. Et donc avec ce parlement, je disais, il y en a deux, un qui est près de Tobrouk, frontière égyptienne ou presque, soutenu par l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Et puis d'autre côté, à Tripoli, on a un gouvernement aussi qui se prétend légitime et qui est soutenu, lui, par la Turquie et le Qatar. Bon, sans compter encore les branches libyennes de l'État islamique et autres djihadistes.
Oui, on en parlait déjà il y a quelques années, on en parlait la semaine dernière, il y a 15 jours. Enfin, là aussi, c'est le chaos généralisé. Et tout ça, effectivement, dans ce qui semble effectivement être la faute à pas de chance, mais quand on y regarde plus près, on se peut légitimement se poser la question de savoir si c'est pas aussi un début politique, c'est de casser durablement certains États, de les rendre très très faibles, hein, en tant qu'État. On l'a vu pour l'Irak, la Syrie, la Libye. Et tant que ce phénomène effectivement de chaos reste circonscrit, peut-être cela fait-il l'affaire des États-Unis, hein, qui sont à l'origine de ces États faillis. Mais en l'état, malheureusement, pour les peuples syriens, pour les peuples irakiens, libyens et pris de liberté, aujourd'hui, ce qu'on leur propose, c'est surtout effectivement de l'insécurité permanente.
Robert, tu avais un sujet que tu voulais évoquer aussi ?
Oui, je voulais parler du départ de Giorgio Napolitano, président de la République italienne. C'est pas une surprise. Là, il faisait déjà du rab et il ne voulait plus être président de l'Italie, mais les parlementaires italiens, l'année dernière, n'avaient pas trouvé de successeur, enfin, une majorité pour un nouveau successeur. Et il avait dit, mais de toute façon, bon, je rempile, mais pas plus d'un an. Et il attendait que le mandat à la tête du Conseil européen de l'Italie soit terminé, c'est-à-dire fin décembre. Il avait dit, début janvier, je démissionne. Voilà, c'est chose faite. Alors, quelques mots pour rappeler que Giorgio Napolitano représentait l'aile droite du Parti communiste dès 1945, dès la fin de la guerre. Et il s'est retrouvé notamment avec Togliatti, ces fameux dirigeants italiens qui ont créé cette situation paradoxale qui a déplu aussi bien à Moscou qu'à Paris. Trop de compromis avec l'impérialisme, y compris avec les Américains, lorsque les communistes ont accepté que la droite chrétienne installe les militaires et les fusées italiennes. Et les fusées américaines en Italie avec naturellement les troupes à la clé. Quand Berlinguer a pris la tête du Parti communiste, qui lui représente plus la gauche, les rapports étaient plutôt tendus. Mais on se souvient que Berlinguer, qui effectivement avait mis sur pied ce fameux compromis historique très très contesté par, on va dire, la gauche de gauche en Italie. Berlinguer a eu une vie assez brève à la tête du Parti communiste, comparé à ce qui est d'habitude la durabilité des dirigeants communistes. Et après, bien... Napolitano s'est retrouvé donc un peu le patron des communistes, d'autant que ce parti communiste peu à peu est tombé en petits morceaux. Et il est entré dans les gouvernements successifs et bon, on lui doit notamment plusieurs choses. Et c'est grâce à son habileté que Berlusconi a pu être évincé du pouvoir, ainsi que l'arrivée de la droite financière avec Mario Monti. Voilà, donc c'est ce Napolitano qui donc finalement n'avait de communiste plus que des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, je ne sais pas, qui donc quitte le pouvoir. Voilà, en Italie, la présidente de la République, c'est pas l'exécutif véritable, mais néanmoins il joue quand même un rôle, un peu comme c'était le cas dans la République en France ou la 4e République. Alors on ne sait pas qui le remplacera. Ça va être sans doute très difficile de lui trouver un successeur. C'est pas anodin, compte tenu effectivement de tout ce qu'on a pu dire sur l'Europe d'aujourd'hui, notamment l'Europe dont on espère qu'elle sera différente à partir de la semaine prochaine, disons.
Voilà. Michel, il y avait un autre sujet que tu voulais aborder ?
Quelques mots de Russie. Cette information que je trouve assez cocasse, c'est le fabricant russe de moteurs, donc pour lanceurs, pour fusées, Energia, donc, qui a signé un contrat à Moscou la semaine passée avec l'américain Orbital Science Incorporation pour la livraison de 60 moteurs donc pour, de fusées, hein, pour le lanceur, pour un contrat qui qui est aux alentours d'un milliard de dollars. Et la première livraison, donc au mois de juin, déjà deux moteurs qui seront livrés. Alors donc le contrat prévoit aussi l'installation donc par les techniciens russes sur place aux États-Unis de ces moteurs, des moteurs en question. Alors c'est assez cocasse parce que au moment où Obama demande à la France de ne pas livrer le Mistral à la Russie, quand les intérêts stratégiques supérieurs de la nation américaine sont en jeu, là effectivement business is business. Donc là vous voyez, c'est-à-dire que vouloir nous faire croire que les sanctions c'est pour tout le monde, non, les sanctions on les impose quand ça nous chante et on les fait imposer par nos vassaux, mais quand on n'a pas d'autre choix, eh bien là, on y va. Ça a été déjà le cas pour BNP Paribas, qui n'avait pas respecté les sanctions américaines, notamment vis-à-vis du Soudan, ils commerçaient le Soudan. Ce qu'on n'avait pas dit aussi à l'époque, c'est que les Américains, eux, commerçaient avec le Soudan, et notamment un géant du soda qui s'appelle Coca-Cola, qui avait besoin de gomme arabique, et le Soudan, premier producteur mondial de gomme arabique pour ses composants de Coca-Cola. Donc qui le faisait par une société écran, mais ça faisait des années et des années qu'il faisait le commerce. Donc voilà, juste rappeler un peu ces quelques faits qui méritent quand même notre attention. L'autre, c'est aussi dans une des républiques de Russie, la Tchétchénie, cette énorme manifestation contre les caricatures de Charlie Hebdo. La Tchétchénie, 1 300 000 habitants, Grozny, 280 000, et on nous annonçait, selon la police tchétchène, 800 000 personnes dans les rues. On peut même diviser par deux, mais même en divisant par deux, ça reste quand même énorme vu les vidéos, les photos qu'on a pu voir de la manifestation sur place. Alors bon, on peut très bien penser que tout ça, ça a été encadré, mais il n'empêche, le monde était sorti. Alors que voulait le président tchétchène, très fidèle allié de Poutine, montrer par là ? D'un, qu'il était un bon musulman, lui qui fait la chasse aux musulmans extrémistes, faut pas l'oublier, toute sa carrière politique depuis l'assassinat de son père, c'était chasser donc les Tchétchènes islamistes et donc montrer que c'est un bon musulman aussi, puisque voilà, lui-même il a été offensé par ces caricatures. Et dans le même temps, bon, c'était une manière indirecte de Poutine de renvoyer la balle à Hollande et à la diplomatie française.
Voilà, t'as encore 2 minutes où tu dois nous quitter, non ?
Je dois vous quitter, oui. Malheureusement.
On va peut-être faire une pause musicale.
Hein ? Je dirais simplement, avant la pause musicale, rappeler qu'il y a eu en Allemagne, et pas seulement des manifestations anti-islamiques, islamophobes, combattu vigoureusement par des contre-manifestants qui effectivement dénonçaient cette montée à Dresde notamment. Donc je voulais dire une information qui par contre effectivement ne fait pas la une de la presse, et pour cause, c'est ces 10 000 Berlinois et de la région de Berlin qui se sont retrouvés à la fin de la semaine dernière pour dénoncer les négociations en cours sur le grand marché transatlantique dit TAFTA. Et on sait que l'Allemagne est très mobilisée, on l'a vu au niveau notamment des signatures qui appellent à ce qu'un référendum soit organisé dans toute l'Europe sur cette question, et notamment que le Parlement européen dise non une bonne fois pour toutes à cette perspective du contenu du traité du grand marché transatlantique.
Allez, pause musicale, avortement d'État sur il y a 40 ans, 40 ans et 2 jours, le 17 janvier 1975, était votée la loi sur l'IVG. On évoquera le sujet dans la suite de la partie nationale.
Avortement d'État, si les femmes sont inconscientes, c'est de rester devant la loi, coupable de ce droit. Avortement d'État, sorcière de notre siècle, femme emprisonnée, femme jugée, sommes-nous en féodalité ? L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Avortement d'État, loi que l'on déguisa un jour de farce à l'Assemblée sans nous y décider. Avortement d'État, encore leur profitera, nous celui qu'on avait appris était libre et gratuit. L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Avortement d'État, si les femmes sont inconscientes, ce n'est pas de de silence, mais de leur force et de leur droit. Avortement d'État condamne encore les femmes, mais plus jamais on admettra qu'ils emprisonnent ce droit. L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Mais plus jamais on admettra qu'ils emprisonnent ce droit.
Voilà, vous venez donc d'entendre Avortement d'État. C'est interprété par un collectif pour des chansons de femmes qui date de cette période, donc de la légalisation de l'IVG, dont on peut dire deux mots puisqu'on est sur le sujet. Donc, parce qu'à l'occasion de ces 40 ans, c'est peut-être, si ça se fait, c'est pas mal quand même. Il y a certaines améliorations qui pourraient être apportées à la loi Veil, à savoir qu'on devrait prendre des dispositions. Le remboursement à 100% par la Sécu est acquis, mais serait aussi remboursé à partir de l'automne 2015 tous les actes qui vont autour, les analyses, les échographies, les visites médicales. Et puis il y a d'autres, l'IVG aussi serait autorisé dans des centres de santé, les IVG thérapeutiques, enfin médicalisés, on va dire, pas seulement les IVG par prescription de médicaments. Et aussi une procédure de prise en charge d'urgence pour les femmes qui sont entre 10 et 12 semaines, donc pour qui ces IVG doivent se faire très vite. Il y en a actuellement, c'est à peu près stable, 217 000 par an en France. Et c'est quelque chose qui, bien sûr, est très apprécié par la population féminine. Ce droit à l'IVG que dans certains pays, on a vu en Espagne, on veut parfois restreindre, je ne parle pas de la Pologne et d'ailleurs. À part ça, dans notre politique nationale, Robert, tu as sûrement d'autres sujets.
On peut revenir quelques secondes sur les suites des deux attentats, notamment l'attentat qui a coûté la vie à une grande partie de l'équipe de Charlie Hebdo. Eh bien, effectivement, le chef de guerre dans ces derniers jours, ça n'était plus tellement Hollande, dont tout le monde, et notamment à droite, se félicite du comportement et sont prêts presque à voter pour lui aux prochaines élections. Je plaisante. Hollande, dont les sondages font remonter la courbe d'une manière spectaculaire. Alors c'est donc oui le premier lieutenant Manuel Valls qui a sorti le sabre et qui donc nous promet toute une série de mesures coercitive aussi bien sur les individus que sur les idées, ce qui est très grave, notamment à travers Internet, mais aussi pour tenter de, par la loi, naturellement, toujours par la loi, état de droit exige, n'est-ce pas? Bon, quand on dit tout ça et qu'on critique ce qui se prépare en coulisses, évidemment, ça ne veut pas dire en quoi que ce soit qu'on soit capable d'expliquer le geste des assassins, et même encore moins, naturellement, de les excuser. Mais faut-il toujours mettre des nouvelles lois, alors qu'on sait que, finalement, quand des terroristes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, hein, ces gens-là, veulent vraiment mettre en acte un attentat, eh bien, généralement, on peut bien fabriquer toutes les lois qu'on veut, et c'est très difficile de les en empêcher, et que le mieux serait pour nos gouvernants de regarder un peu du côté de l'investissement de la France dans des participations à des guerres néocoloniales qui ne veulent pas dire leur nom, puisque finalement, on les fait même pas au nom de la paix, on les fait prétendument au nom de l'humanitaire, mais en fait, on les fait pour maintenir le statu quo ou défendre des intérêts boutiquiers face aux arrivées financières, mercantiles de la planète en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. Donc cette politique, eh bien voilà, elle va sans doute être vouée comme les précédentes à l'échec, parce que la réponse d'une France fière, pour reprendre le terme qui est employé, qui a été beaucoup employé, la fierté, on l'a entendu partout, la fierté de la France, eh bien ça serait plutôt d'être un pays qui propage la paix, et non pas qui participe à des actions punitives au nom des droits de l'homme.
Oui, alors ces attentats n'ont pas que des effets négatifs pour tout le monde. Hein. La cote de Hollande a augmenté de 21%, celle de Valls de 20%. Alors de là à penser de l'instrumentalisation, il n'y a pas des kilomètres, des événements hein, par le pouvoir. Et puis aussi, ça ne fait pas que des petits profits, puisque je crois que tu avais un peu regardé la question, les recettes Charlie Hebdo est sauvé financièrement, puisque les recettes d'un seul numéro se chiffrent en millions d'euros. Alors c'est pas sûr que les suivants feront autant de profits, mais c'est quand même un petit peu bizarre, quoi. Et en plus, il y avait des quêtes de tous les côtés. On va peut-être demander aux donateurs d'arrêter de donner, parce que la coupe est vraiment pleine, quoi.
Oui, il serait important d'ailleurs que l'équipe de Charlie apporte des informations précises sur ces millions qui entrent en caisse à travers la vente du journal, parce qu'effectivement, ça va devenir très malsain et à la limite, ça peut se retourner contre eux.
Voilà, ben on peut peut-être dire un mot aussi des répercussions internationales, parce que je ne sais pas si elles sont aussi instrumentalisées, elles ou pas. On l'a un petit peu vu tout à l'heure à propos de la Tchétchénie, mais il y en a partout, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont bien fait ou pas de remettre une soi-disant caricature du prophète en page une? En tous les cas, ça démarre Jordanie, Pakistan, Alger, Dakar, Bamako, Palestine, Niger, Tchétchénie, Iran, Égypte. Partout, des gens descendent dans la rue pour protester contre ces dessins. Alors l'affaire est donc loin d'être close au niveau diplomatique, politique et aussi entre les tenants d'une liberté d'expression et de la presse et ceux qui pensent qu'elle doit être encadrée et limitée aux préceptes des religions, quoi.
Ceci dit, on peut se demander La politique, effectivement, toujours de surenchère des médias, notamment audiovisuels, qui, hier soir, toutes les trois chaînes traditionnelles françaises, plus les nouvelles comme BFM, iTélé, ont toutes ouvert leurs journaux sur le drapeau français en train de brûler. Je ne sais plus si c'est à Zender ou à Niamey, mais bon, voilà. Et avec simplement quelques dizaines, pas beaucoup de jeunes gens, des hommes comme toujours, parce que dans toutes ces manifestations, de toute façon, on ne voit que des hommes. Quel est effectivement l'intérêt de mettre en ouverture d'un journal et en une ce type d'information, hein? On peut là-dessus aussi effectivement s'interroger sur la déontologie de la presse.
Voilà, on quitte ce sujet pour aborder quelques autres sujets dans les minutes qui nous restent. La grève des routiers, elle a commencé ce matin, elle est arrêtée ce soir, elle reprend demain matin. C'est lié à des négociations dans lesquelles les travailleurs de la route, et ils sont nombreux et ils ont la capacité de bloquer le pays et ils le savent, réclament 5%, disent-ils, d'augmentation de salaire, un 13e mois, au titre de tous les avantages dont leurs patrons ont bénéficié, le CICE, le pacte de responsabilité, la baisse du prix du pétrole, la suppression de l'écotaxe. Ils pensent bien qu'eux aussi pourraient avoir droit à quelques miettes de ce fabuleux gâteau qui est tombé sur le patronat des routiers. Doux embauche, une nouvelle, oui, on nous a beaucoup alarmés avec l'entreprise Doux et ses poulets. Il semble que les poulets de Doux prennent le chemin des pays arabes à grand renfort de tonnes et que, du coup, Doux parle de réembaucher 100 personnes cette année et espère sortir un résultat de 25 millions d'euros de bénéfices. On vous dira aussi quelques mots de l'Union nationale pour la loi Macron, puisqu'il y avait négociation entre le patronat et les syndicats ces derniers jours et qui sont sortis harassés après une nuit de négociation sans être arrivés au résultat. Même Pépère, dans ses vœux, parlait de cette magnifique union nationale qu'il aurait voulu voir se prolonger dans les négociations salariales. Il a tendance à mélanger un peu tout et à prendre ses rêves pour des réalités, lui. Voilà qu'on nous fait le coup, sous prétexte qu'on a eu 3 500 000 personnes dans la rue, que tous les sujets sociaux, politiques doivent être aplanis et ne plus relever que d'une seule volonté commune, sans faire de distinction entre les intérêts des uns et des autres. Les intérêts des uns et des autres, on peut en dire deux mots à propos de Davos, à l'occasion de laquelle une ONG nous révèle que 1% de la population mondiale détient 50% des avoirs et que les 99% qui restent, les 50% qui restent, les 99% se les partagent. Donc on ne voit pas bien la nécessité d'une union internationale autour d'un tel bilan.
On peut faire le point sur la rubrique des ZAD, zones à défendre. Bon, alors Sivens, les choses évoluent confusément. Un nouveau rapport d'experts pense que effectivement le projet initial est bon à mettre à la poubelle. Ce sur quoi Ségolène Royal a dit d'accord, mais il faut faire autre chose. Alors il y a deux contre-projets. D'une part, c'est de créer des dérivations plutôt que de créer une grande retenue d'eau, de faire des dérivations. Et puis aussi un autre projet, ce serait de faire une toute petite retenue, mais pas à l'endroit là où il y a les terres humides, mais plus en amont, où effectivement la question se posait pas dans ces termes-là. Et ensuite, ces experts ont fait une petite enquête, une enquête sondage, et finalement, ils ont lancé 180 lettres à des gens, donc plutôt du milieu agricole, pour savoir ce qu'ils pensaient et qui pouvaient être intéressés le long de ce cours. Et seulement 22 réponses ont dit « oui, moi je suis intéressé par le projet d'aménagement de l'eau ». Et effectivement, c'est ce qu'on savait depuis longtemps, c'est-à-dire que au mieux, ça concerne une vingtaine de personnes.
Voilà, Lyon est devenue une métropole depuis le 1er janvier, vous ne pouvez pas l'ignorer, on nous l'a assez rené. Vive la métropole, Gérard Collomb ce soir même va faire voter au conseil municipal une augmentation non négligeable, 6% sur les impôts locaux, 4% sur les impôts fonciers. Je vous passe tout le reste, les cantines et autres places de stationnement qui vont être taxées. Tout ça pour, paraît-il, suppléer au déficit engendré par les dotations de l'État qui n'arrêtent pas de baisser. On est content d'avoir une métropole, c'est fou. Voilà, tu avais d'autres sujets, il est quasiment 8 heures, on peut aussi, quand non, on aura dit que...
On peut toujours en trouver, mais je crois que il faut qu'on en garde pour la semaine prochaine.
Que l'UNEDIC nous...
Et puis il faut qu'on en laisse à nos camarades des prochains Canu Info de la semaine.
Voilà, l'UNEDIC nous avait proposé, l'UNEDIC ne s'appelle plus comme ça, Pôle emploi, nous parle de 104 000 chômeurs de plus en 2015, c'est sans doute les vœux de Pôle emploi. Ils sont contents parce qu'en 2014, il y a eu 182 000 chômeurs de plus. Allez, on se quitte avec Brigitte Fontaine. Ne quittez pas l'antenne et rendez-vous lundi prochain pour un autre Canu Info du lundi.
Où l'as-tu mis ? Qu'en as-tu fait ? Celui dont j'aimais tant le nom. Te souviens-tu ?
Cigarette.